L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous. Alors, une nouvelle émission, et une relativement nouvelle émission d'ailleurs, pour l'Afrique dans tous ses états. Et je vous avais promis la semaine dernière que c'était dans tous ses éclats. L'année dernière, on a eu peut-être pas trop d'éclats de rire et plutôt un peu, par moments, le cœur un peu lourd à ce que nous a évoqué notre invitée, qui est Christine Cafando. Écoutez, je crois que je ne redirai pas tous ses titres et toutes ses décorations, mais vous allez voir que dans sa force de conviction, dans tout ce qu'elle va nous raconter, vous allez comprendre que c'est un personnage qui n'est pas... Alors, elle ne se veut pas médiatique populaire, ça, elle s'en fiche un peu. Par contre, elle est très active et elle a un poids et une présence dans la lutte contre le sida dans son pays et aussi à l'international, puisqu'elle tourne aussi à l'international, elle vous l'expliquera. Qui est quand même assez exceptionnel. Donc Christine, bonjour. Bonjour. Merci d'être encore là aussi avec nous, malgré toutes vos occupations. Et la semaine dernière, on a évoqué donc votre historique à vous, à savoir votre découverte de cette maladie qui a fait que, à la fois, c'est un choc que l'on reçoit et en même temps, chez vous, ça a été l'occasion de vous redresser et de vous lancer dans une lutte solidaire avec tous et de nous expliquer combien les débuts dans votre pays avaient été difficiles, tant au niveau financier, pécunier, les traitements étant très très chers et le pays ayant quand même un niveau de vie plutôt très bas. Et vous nous avez expliqué comment peu à peu les choses se sont structurées, les gens se sont investis, et comment il y a des choses qui ont pu se passer, tant au niveau hospitalier que au niveau associatif et au niveau encadrement. Vous nous avez expliqué aussi comment vous avez été amené à accueillir en guise de foyer, foyer relais, un bébé, sa maman et puis une dame aussi qui était atteinte de la terrible maladie et qui d'ailleurs ont décédé, le bébé, cette dame et la dame. Et on est arrivé au seuil de ce que j'aimerais que vous nous racontiez maintenant, à savoir... ce que vous avez créé à la suite de votre investissement dans la première association, et qu'est-ce que vous avez créé, comment vous avez conçu ces choses-là. Alors voilà, je vous laisse la parole. Christine, à vous.
Merci beaucoup, Madame Kézak. Il faut dire que quand j'étais dans la première association de lutte contre le sida au Burkina, je me suis rendu compte à un moment donné qu'on ne s'occupait que de nous, en fait, les adultes. Et beaucoup de familles venaient avec leurs enfants et personne ne se posait la question si les enfants sont infectés, qu'est-ce qu'ils ont. Et même quand on les voyait malades, on n'osait même pas aller vers ces questions parce que bon, on savait qu'il n'y avait rien à leur proposer. Et donc, du coup, étant aussi à la permanence médico-sociale de l'hôpital de Bobo-Dioulasso, Sanoussourou, je me suis rendu compte qu'il y a des femmes, des familles qui venaient pour les soins. Ils venaient avec des enfants déjà malades et il n'y avait rien au niveau de la pédiatrie pour ces enfants. Et donc, au bout de 2 semaines ou de 3 semaines de rendez-vous, on retrouvait la famille dans la même salle de consultation sans les enfants. Et lorsqu'on posait la question « Où sont les enfants ?»« Où est l'enfant ?»« Ah, il est décédé la semaine dernière. » Parce que simplement, on n'a jamais posé de diagnostic, on ne s'en est jamais occupé et on n'a jamais su comment prendre en charge les enfants. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de voir dans quelle mesure on peut créer une association, l'association qui va s'occuper essentiellement de la prise en charge des enfants. Pas la prise en charge médicale en son temps, mais au moins la prise en charge psychologique et sociale pour aider les familles à supporter, leurs enfants malades et à les accompagner afin que, ils puissent vivre dignement. Et même si la mort allait survenir, que cette mort-là, elle vienne, mais voilà, qu'on meure dans la dignité. Et c'est comme ça qu'en 2003, avec des amis de Montpellier et puis du Burkina, on a créé la première association pour la prise en charge des enfants infectés, qui est l'association Espoir pour demain. C'est la première même au Burkina Faso parce qu'il n'existait pas d'association spécifique à la prise en charge des enfants et à la prévention de la transmission mère-enfant. Parce que là aussi, il faut dire que pour le traitement des femmes enceintes séropositives, c'était des programmes de recherche, mais il n'y avait pas le traitement pour limiter la transmission mère-enfant en tant que telle. Donc, c'était des femmes qui étaient dans les programmes de recherche qui en bénéficiaient et les autres, voilà. Il fallait accoucher et puis voilà, donner le lait, sachant bien que l'enfant va être infecté par la suite. Donc, du coup, AED est né pour pallier à cette insuffisance-là, qui était très criarde au niveau du pays.
Oui, et donc, oui, je peux témoigner aussi que de ma révolte, parce qu'à l'époque, j'avais fait un travail de recherche sur l'allaitement au Burkina Faso, et j'avais été très choquée de cette campagne. C'était l'ONU SIDA, je crois, qui avait fait une campagne pour traiter le dernier mois de grossesse les femmes. Je ne sais plus quel produit on leur donnait à l'époque, Christine. Nivérapine, c'est ça. Nivérapine. Et pour limiter le risque de transmission à ce moment-là entre la mère et l'enfant. Et quand j'avais posé la question, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là qui se savent séropositives, qui ont eu un espoir qui est né parce qu'on leur a donné un traitement où elles peuvent ne pas avoir dramatiquement transmis la maladie à leur bébé, et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Et on m'a répondu, ça sera l'objet d'une prochaine campagne. Ça veut dire qu'entre-temps, il fallait laisser la mère voir son enfant se détériorer avec cette énorme culpabilité de savoir aussi que c'est elle qui l'avait transmis. Et c'est vrai que des discussions et le fait, cette absence de prise en charge, justement, déjà cette prise en charge très très limitée de la femme et l'absence de prise en charge des enfants était quand même assez, assez révoltante, et que l'association Espoir pour Demain a été la première association, je pense, en Afrique de l'Ouest en tout cas, Christine, à prendre en charge le couple mère-enfant séropositif. Et on a parlé de social, et en sachant que c'était l'association aide aussi, Christine, il faut le dire, aide aussi les veuves, les orphelins, les grands-mères qui souvent se retrouvent avec les enfants qui ont eu la maladie, qui ont fait des enfants et qui les leur ont laissés. Alors dans le meilleur des cas, ces enfants ne sont pas infectés, mais dans le cas moins sympa, ils ont été infectés, et ces femmes qui sont quand même des personnes âgées, plus âgées, et qui ont fait leur vie, se retrouvent avec des charges et ont à cœur de bien les élever. Et je dois dire qu'ils sont quand même super bien soutenus à AED, l'association Espoir pour Demain. Voilà. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu justement le fonctionnement, comment ça se passe dans votre centre et comment vous prenez en charge, qu'est-ce qui vous incombe aux uns et aux autres, comment vous formez les médiatrices, etc., etc.
Bon, avant de venir sur ça, je voudrais rectifier quand même, ce n'était pas l'ONU SIDA qui faisait une campagne, c'était un programme de recherche.
Voilà, c'était un programme de recherche, exactement.
Dont on ne sait pas qui était, voilà.
Ouais. Et qui a fait grand bruit en Afrique à ce moment-là, voilà, parce que ça a traité des millions de femmes quand même, oui.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il faut dire qu'au niveau de l'association, nous avons mis en place plusieurs programmes. Je dirais aujourd'hui, parti de zéro, je dirais 2-3 enfants, nous sommes aujourd'hui à 932 enfants infectés et affectés, et 672 enfants sont essentiellement séropositifs. Et nous avons accompagné jusque-là 400 bébés qui sont nés de mères séropositives, et par la grâce de Dieu, aucun de ces enfants n'est infecté, parce qu'il y a eu un suivi de proximité, l'accompagnement, dotation en lait artificiel. Et l'association compte aujourd'hui 1011 femmes vivant avec le VIH, avec lesquels nous travaillons dans la ville. Et il y a des bénéficiaires, et il y a aussi des médiatrices qui couvrent les formations sanitaires de la ville pour sensibiliser et témoigner à visage découvert, et surtout ne pas laisser passer un cas, en tout cas, ou une femme dans un service de santé sans lui parler de VIH, sans lui proposer le test de dépistage. Et elles sont au nombre de 52, et elles couvrent toutes les formations sanitaires, comme je l'ai dit. Il faut dire que nos activités sont essentiellement la prise en charge médicale à travers des consultations médicales. Nous avons deux médecins qui viennent faire la vacation. Nous avons une attachée de santé mentale qui vient en renfort sur le plan psychologique. Et nous avons un nutritionniste, deux infirmières, plus les 52 médiatrices. Donc, en fait, c'est une équipe pluridisciplinaire et nous apportons un soutien à travers l'achat des médicaments, l'hospitalisation, les ordonnances, les examens. Et nous apportons aussi un appui nutritionnel, la scolarisation de ces enfants, parce que bon, la plupart de ces enfants sont issus de familles démunies et très pauvres qui ne peuvent pas assumer. Donc, nous essayons de les accompagner. Et pour ceux qui ont un échec au niveau scolaire, on essaie de les caser sur le plan professionnel, mettre dans les métiers et tout. Et je ne voudrais pas finir ici sans citer quand même quelques partenaires qui nous ont accompagnés depuis le début depuis la création de l'association, notamment l'association Maya de Montpellier, qui a commencé à parrainer les tout premiers enfants sur le plan social. Et aussi l'association Appel, qui en son temps, comme on n'avait pas de traitement, il payait le traitement pour ces enfants-là jusqu'à ce que le traitement soit rendu gratuit. Et maintenant, ces parrainages sont transformés en appui social pour la famille. Et il faut dire que nous avons aussi eu le soutien d'autres partenaires pour la dotation de lait maternisé pour accompagner les femmes enceintes séropositives. Voilà, il y a beaucoup d'activités que nous menons autour de la prise en charge globale. Je dirais que c'est une prise en charge globale qui comprend tous les volets social, médical, nutritionnel. Et voilà, et donc... Je ne sais pas. En ce moment, en perspective, nous sommes en train de construire un centre de santé communautaire avec une capacité d'un centre de récupération nutritionnelle qui a une capacité de 10 lits, d'accueil de 10 lits. Et on a 3 classes de maternelle. On a un bâtiment R+1 qui va faire office du centre médical et administration qui est en cours de finition. En ce moment, nous sommes en rupture de fonds, de bailleurs, de partenaires. On n'a pas de ressources pour terminer. Mais bon, on espère toujours que des personnes de bonne volonté, de bonne foi, des gens qui ont confiance, viendront toujours en aide à cette population démunie, défavorisée. Je dirais même il y a une injustice au niveau de notre cible, en fait.
Oui, alors c'est vrai que ce centre de santé communautaire est une œuvre, enfin, c'est quand même une grande idée de Christine qui est très investie dans le communautarisme. Elle pense, et c'est une richesse d'ailleurs qu'on peut retrouver justement en Afrique encore, tant que les réseaux ne se sont pas familiaux, etc., et ethniques, etc., ne se sont pas complètement délités. Et c'est vrai que, bon, c'est difficile de trouver des bailleurs, de trouver des gens intéressés, d'autant que dans les aides chez les grands bailleurs, il y a un désinvestissement de la... Comment on dirait du financement de locaux, parce qu'il y a eu aussi, je pense, Christine, peut-être je me trompe, mais des abus hein, de gens qui ont utilisé ça et puis finalement à des fins personnelles. Donc il y a une méfiance à ce niveau-là et on trouve peut-être un peu plus facilement, si on peut dire, si on peut employer l'adverbe facilement, on trouve un peu plus pour tout ce qui est soins et nutrition et nourriture que pour le et pourtant pour le bâtiment, la construction. Et pourtant ce centre se situe dans un quartier, enfin moi je le connais, c'est un quartier complètement en construction, c'est comme chez nous hein. Il y a des villes qui s'étendent avec des espèces de jachères qui tout à coup se mettent à pousser avec des gens qui y habitent, sauf que les moyens là-bas sont beaucoup plus limités. Et ce centre correspondrait vraiment, en plus il accueillerait pas que les porteurs de VIH, hein, voilà, tout public, et que l'aide est apportée à tous. Alors évidemment, la maladie dont on parle depuis tout à l'heure attire beaucoup de malheurs, voilà, de dénuement et de déstructuration des familles, etc. Donc c'est celle qui peut-être qui pèse le plus sur la société, mais il y a aussi toutes les maladies, alors entre autres opportunistes du VIH, mais aussi le paludisme. Moi, j'ai vu des enfants mourir, en train de mourir de paludisme, voilà, de tuberculose, etc. Et en sachant que c'est un pays où, quand vous arrivez à l'hôpital, vous commencez à payer le moindre matériel. Sinon, vous n'avez pas de soins. Je veux dire, le matériel, ça commence par le coton et l'alcool, par exemple, pour désinfecter. C'est-à-dire, c'est après, ben, les repas, c'est pareil. Vous n'êtes pas nourri pour que la famille vienne vous nourrir, etc. Et puis, si c'est trop grave et que la famille est complètement anéantie et puis n'a plus les moyens, ben, on peut vous abandonner. Christine nous en a parlé la semaine dernière. Hein, on peut vous abandonner parce qu'on sent que c'est fichu et que voilà, qu'on n'a plus les moyens. Alors, Je ne sais pas, je pense qu'on pourrait continuer un petit peu à parler quand même de cette association qui est en réseau, parce que ce qui est assez, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est les réseaux relationnels que vous avez, que ce soit avec l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu voilà, vos contacts un petit peu dans la ville de Bobo qui fait que vous êtes ouvert pratiquement, surtout pratiquement tout ce qui peut aider les populations, vos bénéficiaires et les autres et les gens qui viennent consulter?
En fait, il faut dire que nous, Association Espoir pour Demain, nous ne sommes pas là pour changer ou pour remplacer le monde médical. Je pense que dans la lutte contre le VIH, chacun a sa part de responsabilité, chacun a son rôle à jouer et chacun a ses tâches. Donc, dans ce sens-là, nous avons décidé, nous, de ne pas travailler de façon isolée, mais de travailler avec les formations sanitaires. Et nous avons essayé de faire une démarche au niveau du ministère et de la direction régionale de la santé pour obtenir une convention de partenariat et proposer nos prestations dans ces formations sanitaires. Et donc, du coup, le ministère de la santé, la direction régionale de la santé, l'hôpital Sanou-Sourou de Bobo, sait que les associations existent, le monde communautaire est là, la société civile joue son rôle et apporte au contraire un appui au système de santé. Et donc, du coup, comme j'ai dit, on a notre place, on a notre rôle à jouer dans le système de santé. Et c'est un partenariat qui est très, très riche parce que, bon, ça permet quand même que chacun réponde à ce qu'il peut répondre, en fait. Chacun apporte la pierre qu'il peut apporter pour que la santé de la population soit beaucoup améliorée. Voilà. Et dans un contexte où il y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de personnel, ben, inutile de se regarder en chien de faïence dans les services ou dans les associations. Et c'est ensemble qu'on peut, en tout cas, le moi-je ne peut rien faire, mais nous, on arrive à toujours faire quelque chose. Quand on emploie le mot nous, on avance. Mais quand on emploie le je, on reste toujours en arrière. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est qu'on a toujours employé le mot nous. Voilà. Et là, je profite pour dire merci à tous mes collaborateurs, à tout le système de santé de Burkina Faso et aux partenaires aussi qui nous ont accompagnés depuis le début de l'épidémie.
Oui, donc, mais quand même, je rajouterais que il faut un leader, hein, un chef quelque part. Alors après, plus ou moins dans le pouvoir, mais qu'il y a un moment, il y a une pour fédérer les choses, il faut bien à un moment qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une tête comme ça qui soit un peu dans la lumière. Et voilà, et par moments peut-être un peu sévère aussi quand ça va pas, pour ramener les brebis égarées dans le chemin. Et que ça, bon, je pense que Christine Cafando le fait assez, plutôt même très bien. Ce qui fait que l'association Espoir pour Demain a quand même 15 ans et qu'elle a une lisibilité dans le pays, hein, et que la présidente. Bon, à tous les prix qu'on en a énumérés ou toutes les reconnaissances, mais qu'en même temps, l'équipe est fière de continuer à avancer. Et Dieu sait qu'il le faut. Alors, moi, j'aimerais, voilà, je sais que vous faites aussi des plaidoyers à l'international, que vous êtes quand même maintenant une personnalité reconnue, ce qui n'a pas toujours été facile, parce que ce n'est pas facile quand on est aussi concerné, hein, qu'on a soi-même porteur de la maladie et qu'on doit militer. Et s'oublier un petit peu pour les autres, et puis qu'on doit parler vrai. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu votre chemin dans de grandes instances, pour avoir vu des photos avec des grandes personnalités que je nommerai peut-être tout à l'heure. Est-ce que vous expliquez-nous un peu votre rôle et comment vous fonctionnez pour faire ces grands plaidoyers
Mais en
devant
fait,
des grands aréopages de grandes personnalités?
ouais, il faut dire que dans mon parcours, à un moment donné, lorsque j'ai fait le témoignage à visage découvert au niveau national, en fait, le but, c'était d'interpeller les gens à avoir un regard positif, ou si vous voulez, à changer les regards des personnes vivant avec le VIH. Et aussi, c'était l'occasion pour moi d'interpeller les chefs d'État africains à reconsidérer leur position et à mettre beaucoup de moyens autour du VIH et surtout d'aller chercher les financements, il faut aller les chercher pour que la population puisse avoir accès au traitement. Parce que c'était eux qui pouvaient faire bouger aussi. Il fallait un engagement politique très fort. Et en son temps, il n'y avait pas d'engagement. Donc, il fallait des gens, il fallait une preuve vivante de la situation qui, en tout cas, représente l'ensemble des autres populations pour que les autorités, de haut niveau puissent comprendre que vraiment le problème est là, il est réel et si on ne fait rien, ils n'auront plus de peuple à gouverner de toute façon s'ils ne se bougent pas. Donc du coup, j'ai été appelée par la présidence du FASO, où j'ai eu à faire une pause avec le président, et c'était à l'occasion de la campagne mondiale de lutte contre le sida en 2001, où je l'ai interpellé pour dire que moi, j'ai fait mon dépistage, je connais ma sérologie, je suis séropositive, je prends soin des autres et je ne transmets pas le virus parce que je sais que je dois me protéger. Et toi, est-ce que tu as fait le test là où tu es de ton poste de président? Donc, du coup, séance tenante, il y a une équipe qui est venue avec, ça a été bien organisé, hein. Ça a été sciemment fait. Donc, il s'est prêté au dépistage pour montrer à l'ensemble des Burkinabés qu'il fallait aller au dépistage et se faire prendre en charge par la suite et surtout accepter les personnes vivant avec le VIH tels qu'ils sont. Et après ce grand plaidoyer national, il y a aussi le plaidoyer pour l'accès au traitement des enfants, où j'avais été invitée par le président Chirac à New York pour lancer le tout premier programme de prise en charge au niveau mondial UNITED. En fait, c'est Chirac qui a initié les taxes sur les billets d'avion. Et donc, pour lancer ce programme, il fallait être aux États-Unis et il m'a invitée personnellement. J'ai parlé au nom des enfants, au nom des femmes. Et voilà. Et après ça, il m'a encore invité au forum des grands leaders africains, notamment qui se nommait le forum Afrique à venir, c'est-à-dire des leaders qui pouvaient changer l'avenir un peu de l'Afrique, où j'ai été de nouveau conviée. J'ai présenté un peu la situation du pays en termes de VIH. Et après ça, il y a le président Clinton aussi qui nous a conviés à une rencontre aux Nations Unies, justement, les femmes leaders en Afrique de l'Ouest, pour voir dans quelle mesure on pourrait accélérer. C'est travailler à accélérer l'accès au traitement, parce que ce qu'on appelle le 3x5, là, et, il fallait accélérer pour que, quel que soit l'endroit où tu sois, que tu puisses avoir accès au traitement sans dépenser beaucoup d'argent, sans mettre beaucoup d'énergie, sans mettre beaucoup de... C'est-à-dire que le traitement doit aller vers les malades. Voilà, donc il fallait travailler à la décentralisation. Donc l'idée, c'était aussi de faire la promotion du traitement, du dépistage, puisque le traitement a montré son efficacité. Et on n'en meurt plus du VIH si on est suivi, sauf peut-être ceux qui n'ont pas été dépistés à temps, qui ont refusé, qui viennent à la dernière minute. Bon, encore ça, on peut encore sauver des vies, mais bon... Il faut avoir un plateau technique très fort pour pouvoir arriver à là.
Oui, alors on voit bien que les plaidoyers, enfin, la force du plaidoyer fait que finalement tous ces grands personnages qui initient des choses au niveau international, des luttes, etc., font un peu la différence selon qui parle, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est une de vos forces en tout cas. Peut-être maintenant, j'aurais aimé qu'on reparle un peu avant de clôturer, que vous nous expliquiez un petit peu vos soucis actuellement par rapport à ce qui se passe là au niveau. Bon, vous avez eu de nouvelles très tristes là récemment, qui m'ont aussi beaucoup attristée d'ailleurs, parce que j'avais reçu des photos des enfants concernés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle et qui fait qu'il va falloir encore et encore chercher des soutiens, des aides peut-être, et surtout au niveau du médical, là, hein, des grands laboratoires qui, ma foi, doivent pouvoir donner un peu par rapport à tout ce qu'ils gagnent, doivent pouvoir partager un peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
En fait, en ce moment, la plus grosse difficulté que nous traversons en ce moment, c'est la prise en charge des adolescents vivant avec le VIH. Parce que nous avons accompagné des femmes depuis le début de la grossesse. Et aujourd'hui, certains de ces enfants ont entre 15, 16, 17 ans. Et c'est au moment où ils deviennent actifs dans la société, où ils doivent affronter d'autres difficultés, que ces enfants succombent. La question que je me pose, faut-il sauver les enfants très tôt et les laisser mourir à l'âge d'adolescence, ou il faut les laisser mourir très tôt et puis comme ça, personne n'en souffre? Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à un taux de décès d'adolescents vivant avec le VIH parce que simplement, il y a certains examens qu'on ne peut pas faire dans notre pays, notamment le génotypage. Et il faut dire que les enfants ont commencé à prendre le traitement très tôt. Donc, à un certain âge, et le poids, et la quantité du médicament, et la nourriture, tous ces phénomènes rentrent en jeu. Et l'enfant développe des résistances, manque d'observance correcte. Et donc, du coup, il faut changer le traitement. Et souvent, le plateau technique qu'on a en termes médicaux n'est pas assez costaud pour pouvoir faire ces examens. Et donc, les enfants continuent à avaler les médicaments, ils continuent à développer des infections opportunistes et finissent par mourir. Et je vous dis qu'en fin 2017, on a perdu 6 enfants en 4 mois. Et là, en 2018, on a perdu 3 enfants. Et tous de la même manière, parce qu'on ne peut pas faire des génotypages. Il y a certains examens qu'on ne peut pas faire. Les enfants sont mal suivis quand ils sont adolescents. Et là, j'en veux vraiment à notre système de santé. J'en veux à la communauté internationale entière, parce que c'est inadmissible de laisser mourir ces enfants-là. Sous le regard, de l'ONU SIDA, du Fonds mondial, de tout le système des Nations Unies, c'est une honte. Et j'interpelle l'UNICEF, qui, ici aujourd'hui, qui doit se réveiller et prendre ses responsabilités et assumer. Voilà, parce que je trouve simplement aberrant que... nos jeunes enfants tombent sous le poids du VIH alors qu'aujourd'hui, on ne devrait plus mourir du sida.
Oui, et donc je partage la colère de Christine et je dois dire que la problématique de l'adolescence, elle est vraiment essentielle et c'est peut-être pas pour rien parce qu'à la fois cet enfant qui a été sauvé, qui est une promesse de l'aube de sa vie d'adulte, devient cet adolescent qui peut être en rupture avec le monde des adultes, parce que pourquoi il en est là, pourquoi cette injustice, etc. Et que ce soit tant au plan psychologique que maintenant sur tout ce que vient de développer Christine, il y a une grosse difficulté à laquelle les équipes se heurtent depuis longtemps. Il n'y a pratiquement pas de psychologue au Burkina Faso. Moi, c'est mon métier, mais bon, quand j'y vais, je peux un peu soutenir, mais après, c'est pas à moi de le faire. Et je pense que là, il y a une urgence pour ces adolescents. Globalement parlant, effectivement, on peut entre autres interpeller l'UNICEF parce que c'est porteur. Alors, Christine, le positif après dans tout ça, après toutes ces années de lutte, c'est quoi ?
Il faut dire quand même qu'on revient de très loin. Et même s'il y a des insuffisances, on doit reconnaître qu'il y a eu quand même du bon boulot qui a été fait. Et à tous les niveaux, que ce soit dans le monde communautaire, dans le monde des laboratoires pharmaceutiques, dans le monde médical, il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais comme j'ai dit, ça reste insuffisant et on doit toujours faire, on doit toujours chercher. Et aujourd'hui, le bonheur qu'on a, c'est que c'est rare qu'on meure du sida parce qu'il y a le traitement. Et voir des familles épanouies, des familles qui sont heureuses, même s'il y a le VIH, qui ont toujours le sourire, qui ont envie d'aller de l'avant, ça, c'est un bonheur qu'on ne peut pas expliquer. Et aussi, pouvoir avoir des enfants qui naissent de mères séropositives et qui grandissent normalement sans être contaminés par le virus, ça, je pense que c'est... On ne peut pas être plus heureux que ça, de voir un enfant sain, propre, qui grandit comme tous les autres enfants. Et je pense que ça, c'est pour moi, c'est le succès du combat, en fait, ça. Le succès de mon engagement, de notre engagement. Et voilà.
Voilà, que vous soyez une combattante éternelle avec l'arc, les flèches et tout ce qu'il faut. Et que la lutte continue pour vous et surtout les victoires, hein, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, il y en a encore, c'est bien de le rappeler. Donc on vous souhaite longue vie, longue route sur cette lutte-là. Et merci encore d'être venue nous rencontrer. C'était vraiment à la fois émouvant et en même temps stimulant de savoir qu'il y a tant de vitalité là-bas, en Afrique. J'ai beau le savoir, je suis toujours émerveillée et c'est ce que j'ai envie de communiquer un petit peu aux gens.
Voilà. Et l'homme n'est jamais si grand que lorsqu'il se penche pour aider un enfant.
Voilà, la devise de Christine qui est devenue célèbre un peu partout. Voilà. Bon, merci à tous. J'espère que ces deux émissions vous auront sensibilisé sur à la fois la difficulté, mais en même temps la combativité, combien nos partenaires du Sud, nos amis du Sud sont vivaces. Et je vous souhaite à bientôt. Et bien, bel été, pas trop de chaleur, des grillades, un petit rosé frais et tout. Et à très bientôt. Au revoir.